Merci beaucoup d'écouter Radio Alpha, la radio lusophone en France. Vous écoutez plus précisément l'Alpha 10-13. Il est maintenant l'heure de commencer notre rubrique mensuelle de santé, la santé d'abord. Je suis aujourd'hui en compagnie, comme souvent, de Suzette Fernandez, mais aussi de Marc-Antoine Bendera et de Florence Canouy-Poitrine. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour Didier.
Bonjour. Je vous invite, l'un après l'autre, à vous présenter à nos auditeurs et auditrices.
Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc je suis médecin de santé publique et professeur d'épidémiologie. Je travaille au CHU Henri Mondor, non loin d'ici. Et je dirige une équipe de recherche qui s'intéresse à l'épidémiologie du vieillissement. Et en particulier, on s'intéresse particulièrement à la question des cancers qui surviennent chez les patients âgés. Et je pense qu'on en reparlera un peu plus tard.
Mmh. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Marc-Antoine Bendera, je suis oncologue, cancérologue à l'hôpital Tenon, à la PHP, dans le 20e à Paris.
Et Suzette ?
Et voilà, donc Suzette Fernandez, représentante des âgés à Mondor, et je suis là pour me faire un peu l'avocat du diable en essayant de poser quelques questions pour mieux informer les auditeurs.
Absolument, et nous allons donc, vous l'avez peut-être déjà compris, chers auditeurs et chères auditrices, parler aujourd'hui essentiellement du cancer de la prostate et du cancer du sein. Ma première question sera très large, disons. Qu'est-ce que le cancer de la prostate ?
Alors, je vais peut-être prendre la parole. Donc, le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Il y a un peu moins de 60 000 cas par an en France. C'est un cancer qui est développé aux dépens de la prostate. Et c'est ce qu'on appelle un cancer hormonodépendant. Donc, il dépend des hormones sexuelles masculines, c'est la testostérone. Et c'est un cancer qu'on traite très bien. Un cancer, ce qu'on appelle de bon pronostic. Et c'est un peu le pendant du cancer du sein chez la femme, qui est aussi un cancer hormonodépendant et qui est le cancer le plus fréquent chez la femme.
Le cancer de la prostate se soigne-t-il ?
Alors oui, il se soigne plutôt bien. Comme tout cancer, il faut le diagnostiquer à un stade précoce pour pouvoir le guérir. Donc le stade précoce, c'est-à-dire que le cancer reste localisé à la prostate et qui ne donne pas ce qu'on appelle de métastase. Il ne part pas dans les os, par exemple, ou les ganglions. Et quand il est localisé à la prostate, on le guérit. Et donc avec des traitements qui sont soit de la chirurgie ou de la radiothérapie. Donc c'est un cancer qui se soigne bien actuellement. Oui.
Et existe-t-il une différence entre le diagnostic et le dépistage ? Diagnostiquer et dépister ?
Absolument. Le dépistage, c'est quand on identifie une maladie à un stade le plus précoce possible et que la personne n'a pas de symptômes, la personne ne se plaint de rien. Mm-hmm. Donc, il existe en France ce qu'on appelle des programmes de dépistage organisés, qui sont organisés au sens organisé par la Sécurité sociale, l'assurance maladie. Et aujourd'hui, on a le dépistage organisé du cancer du sein. Donc, pour les femmes qui reçoivent une lettre de la Sécurité sociale pour aller faire une mammographie de dépistage à partir de 50 ans, il y a d'autres dépistages organisés. Ça n'existe pas pour le cancer de la prostate. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le dépistage, c'est qu'on va détecter par des examens, par exemple radiologiques ou biologiques, un cancer à un stade le plus précoce possible, alors que le patient n'a aucun symptôme. Et le diagnostic, c'est en général, quand on a détecté un symptôme, la personne se plaint de symptômes, par exemple, une femme a senti une boule dans son sein, et elle va consulter pour ces symptômes, mmh. Et le médecin va lui proposer de faire des examens pour identifier si oui ou non on identifie une tumeur.
Et donc, comment diagnostique-t-on et dépiste-t-on le cancer de la prostate et le cancer du sein ?
Alors, le cancer de la prostate, il n'y a pas, comme disait Florence, de dépistage organisé, donc systématique, parce que ça, il n'y a pas d'étude qui a formellement dénombré un bénéfice en termes de décès, donc ça ne réduit pas les décès. Si on décide de dépister quelqu'un, donc à l'échelle individuelle, donc un patient qui souhaite se faire dépister du cancer de la prostate, son médecin traitant peut le faire en lui prescrivant ce qu'on appelle le dosage du PSA, c'est une petite protéine qui est sécrétée dans le sang. C'est prostate spécifique antigène, c'est en anglais, et un toucher rectal. Donc le PSA, c'est donc ce qu'on dose dans le sang, s'il est élevé, c'est plutôt en faveur d'un cancer de prostate, mais pas que, parce que le PSA peut être élevé dans d'autres causes. Hein. Par exemple, quand on a une grosse prostate, l'hypertrophie bénigne de prostate, on a un PSA élevé. Quand le PSA est bas, c'est plutôt rassurant, le cut-off, on dit qu'au-dessus de 4, il faut faire des examens. Mmh. Et le toucher rectal, le but, c'est de toucher la prostate. Donc, c'est un doigt qu'on met dans l'anus pour toucher la prostate et voir la taille de la prostate, sa consistance, si on sent un nodule. Et donc, c'est ces deux examens qu'on peut faire pour dépister le cancer de la prostate. Pour le cancer du sein, c'est un dépistage systématique qu'on propose à tout le monde et donc il faut le faire. C'est les patientes, donc les dames, pardon, parce que c'est des dames qui ne sont pas malades, donc qui ont entre 50 et 74 ans. Donc à partir de 50 ans, comme disait Florence, elles reçoivent une lettre de la Sécurité sociale pour faire le dépistage, donc une mammographie tous les 2 ans. Et si cette mammographie est anormale, donc on trouve quelque chose, elle est envoyée à un gynécologue après avoir fait une biopsie de ce qu'on a trouvé. Et donc il y a des études qui, là on a fixé à 50 ans l'âge pour faire le dépistage des cancers du sein, mais il y a des études qui sont en cours pour diminuer un peu cet âge, parce qu'il y a peut-être des dames où ça serait bien de les dépister plus tôt. Donc on en parlera peut-être, je ne sais pas si Florence, tu veux...
Oui, non, ce qu'il faut dire, c'est que le dépistage organisé pour le cancer du sein, puisque ça n'existe que pour l'un des deux cancers dont on parle aujourd'hui, il est loin de toucher 100% des femmes qui sont éligibles, c'est-à-dire les femmes entre 50 et 74 ans aujourd'hui, même si ça bougera peut-être. Et donc, on a prouvé que ce dépistage, il était efficace, c'est-à-dire qu'il permettait, par des études, on a montré que le fait de repérer des cancers à des stades plus précoces permettait de les traiter à un stade plus précoce et donc de donner à des femmes, à ces femmes qu'on diagnostique quand il y a un cancer du sein, des traitements plus tôt et moins agressifs, puisque la tumeur a été moins développée et donc, in fine, à avoir un meilleur pronostic en termes de survie, mais aussi moins de conséquences des traitements, puisqu'on aura réduit les traitements, puisqu'on aura trouvé la tumeur plus tôt. Et malgré ça, on n'arrive pas du tout, on est très loin des 100% d'adhésion au dépistage par la mammographie pour ces femmes. Alors, il y a différentes raisons de non-acceptabilité de ce dépistage, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de travaux, de recherches et même d'interventions pour comprendre un petit peu pourquoi ces femmes qui sont dans la cible ne vont pas jusqu'à la mammographie et quels sont les leviers, les différentes interventions qu'on pourrait mettre en place pour aller vers ces femmes et aller proposer dans les conditions qui seraient plus acceptables pour elles cette mammographie.
Quels sont les chiffres en France concernant ces deux cancers, celui de la prostate et celui du sein ?
On est en gros sur ces deux cancers à peu près dans les mêmes eaux, je dirais. On est à peu près autour de 60 000 nouveaux cas de cancer de prostate chez l'homme et 60 000 nouveaux cas chez la femme. On a à peu près 900 000 femmes qui vivent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la prévalence en épidémiologie. On a 900 000 femmes qui vivent aujourd'hui avec un cancer du sein en France, alors que ce soit un cancer détecté il y a peu ou depuis très longtemps. Et puis, c'est autour de 600-700 000 pour le cancer de prostate. Donc, vous voyez, c'est un grand nombre de personnes qui vivent aujourd'hui en France avec un de ces deux cancers. Le cancer du sein, il a beaucoup augmenté dans les années 90 du fait de la mise en place du dépistage. On en a repéré plus. Et puis, là, il est plutôt stable ou avec un petit peu d'augmentation. En termes de cancer de prostate, c'est plutôt, on observe bien qu'il y ait un vieillissement de la population et l'âge est un des principaux facteurs de risque de ces deux cancers. On a une baisse plutôt de l'incidence du cancer de prostate, pas énorme, mais une petite baisse. Et en termes de pronostic de survie, c'est, comme disait Marc-Antoine, des cancers de bon pronostic, puisque la survie à 5 ans, elle est au-delà de 80% et à 10 ans est à peu près dans ces eaux-là, plutôt 75%. Mais du fait que ça touche un très grand nombre de personnes, il y a quand même un nombre de décès par an en France de ces deux cancers qui est important et le cancer du sein reste la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Et pour le cancer de prostate, c'est le troisième derrière le cancer du poumon et colorectal.
Et nous allons pour le moment marquer une courte pause. Merci beaucoup d'être branché à Radio Alpha, la radio lusophone en France. On continue notre rubrique de santé, la santé d'abord. Voici ma question, comment explique-t-on la baisse du nombre des cancers de la prostate ?
Il y a une explication possible, c'est qu'à un moment, on faisait beaucoup de dépistage. Parce que comme on en a discuté, on ne fait pas un dépistage chez tout le monde. Mais il y a, au début des années 2000, on dépistait beaucoup de personnes. Et on est revenu un peu sur ça, donc il y a eu un pic après les années 2000. Et c'est pour ça que ça a rediminué maintenant, parce qu'on fait moins de dépistage.
Et Suzette avait une question sur le dépistage, il me semble.
Oui, en fait, la PSA, c'est plus la PSA est augmentée, plus il y a de probabilité qu'il y ait un cancer de la prostate. Alors, moi, j'ai eu des cas où, justement, la PSA était inférieure à 4 et il y avait quand même un cancer. De ce fait, le cancer a été pris en charge bien plus tard qu'il n'aurait dû l'être. C'est des pertes de chance, là. Et donc, je reviens, en fait, au dépistage.
Ouais, du coup, ça existe. Alors, c'est pas des situations fréquentes. La situation la plus fréquente, c'est quand le PSA est élevé et qu'on n'a pas de cancer, en fait. Mais parfois, le PSA peut être bas et on a un cancer de la prostate. C'est moins de 10% des cancers de la prostate qui ne sont pas hormonodépendants. C'est pas la forme les plus fréquentes de cancer de la prostate. Et en fait, le PSA, il est sécrété par les cellules cancéreuses du cancer de la prostate. Et il y a certains cancers de la prostate qui ne sécrètent pas cette protéine. Et c'est pour ça qu'on ne la détecte pas dans le sang. Et c'est des formes plus rares et qui sont un peu plus agressives parce que ce n'est pas les mêmes traitements et elles répondent moins bien au traitement. Et chez la personne dont vous parlez, le dépistage n'aurait pas été bon parce que le dépistage, c'est le PSA, le toucher rectal. On aurait pu peut-être le détecter avec le toucher rectal si c'est un cancer qu'on détecte avec le doigt. Mais le PSA aurait été négatif et du coup, on serait passé à côté. C'est comme tout examen, il n'y a pas d'examen fiable à 100%, on n'en a pas en médecine ou très rarement d'examen fiable à 100% qui nous permet de dire c'est un cancer ou c'est pas un cancer. Et c'est pour ça qu'on retrouve encore maintenant des cancers de la prostate avec des métastases au diagnostic. C'est qu'il n'y avait pas de symptômes et on tombe, le patient a mal, on trouve des métastases sur les os qui font qu'il a mal et on trouve le cancer métastatique parce qu'on n'a pas réussi à le détecter plus tôt.
Vous parlez de perte de chance, Suzette, mais il faut voir aussi que le dépistage, c'est pas sans risque. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien mettre en balance, donc effectivement, on a parlé là du cas où le PSA est anormalement bas, alors qu'il y a un cancer, et on a beaucoup de situations où le PSA va être élevé et en fait, il n'y a pas de cancer. Mais en fait, ce n'est pas juste une prise de sang. C'est-à-dire que dans ces situations-là, et c'est ce que montrent les études de recherche qui ont comparé faire un PSA systématiquement aux hommes, par exemple à partir de 50 ans, tous les deux ans, versus ne pas faire de dépistage et faire soit un dépistage ciblé en fonction du colloque individuel entre le patient et son médecin, soit ne rien faire. Et donc on a des PSA élevés qui ne correspondent pas à des cancers pour lesquels on va proposer donc une imagerie et une biopsie. Et donc il y a de nombreux cas où on va aller proposer des examens et des examens invasifs qui peuvent être suivis de complications alors qu'il n'y a pas de cancer. L'autre chose qu'on sait donc il faut bien peser toujours bénéfice-risque et en effet, il n'y a pas 100% de fiabilité des examens diagnostiques. On tend à ça, évidemment, mais c'est pas 100%. Et l'autre chose qu'on sait, c'est que comme c'est un cancer qui est très lié à l'âge et que certaines formes de cancer de la prostate évoluent très, 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 très lentement, on a un certain nombre de patients à qui on va trouver un cancer de la prostate, mais qui, si on n'avait pas fait de dépistage, comme il évolue très très lentement, on ne l'aurait pas trouvé, et du fait des comorbidités, c'est-à-dire des autres pathologies qu'a le patient, il a une plus grande probabilité de décéder d'une autre pathologie que le cancer de prostate. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment mettre en balance, parce qu'on va proposer des examens, des traitements, la qualité de vie et le bénéfice potentiel ou la perte de chance du dépistage.
Alors, en parlant de ces moins de 10% donc de cancer, de ces cas, est-ce que dans ce cas-là, le cancer de la prostate ne serait pas apparu suite à un autre cancer existant déjà quelques années auparavant ?
Alors, c'est, on n'a pas de données sur ça. C'est toujours plus difficile d'avoir des données sur des cancers rares, parce que ces formats de cancer de la prostate sont rares. Les facteurs de risque, ça reste un peu les mêmes, l'âge, si on a des cas dans la famille. Et donc, si un patient, par exemple, a déjà eu un autre cancer avant, ou dans sa famille, de la prostate ou du sein, il y a ce qu'on appelle des mutations de BRCA, c'est des gènes qui réparent l'ADN. Et quand on a ces mutations, on est plus à risque de faire des cancers du sein ou de la prostate. Donc, par exemple, si la personne dont vous parlez a une sœur qui a un cancer du sein, un oncle qui a un cancer de la prostate, peut-être que du fait qu'il ait toutes ces personnes qui est dans la famille qui a ces cancers, il est plus à risque lui-même parce qu'il est porteur de cette mutation BRCA. Donc, c'est ce qu'on appelle c'est un cancer héréditaire. On transmet la mutation dans la famille.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ces personnes à haut risque de cancer, que ce soit d'antécédents familiaux ou d'autres facteurs de risque, là, on sort complètement de la notion de dépistage. Le dépistage, il est organisé pour les personnes à risque moyen, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas un sur-risque de cancer. Quand on rentre dans ces catégories-là de sur-risque de cancer, que ce soit prostate ou sein, on est tout de suite sur des parcours personnalisés qui vont évaluer le risque de cancer, éventuellement surveiller de manière plus approfondie ce patient, mais on sort complètement des programmes organisés de dépistage populationnel qui sont vraiment faits pour les personnes à risque moyen qui n'ont pas un facteur de risque particulier de développer un cancer.
Et dans quel cas peut-on estimer que nous sommes en sur-risque ?
Alors, très bonne question. Donc, il y a des programmes qui sont assez récents et qui sont en train de se monter pour essayer d'évaluer le risque de cancer individuel, pardon. Et le plus simple, c'est vraiment les antécédents familiaux à un degré proche, donc parents, frères, sœurs. Et là, c'est vrai que dans ces cas-là, en général, le médecin ou l'équipe qui prend en charge le patient va conseiller un parcours particulier d'évaluation du risque aux enfants, frères, sœurs, apparentés au premier degré. Mais l'Institut Gustave Roussy, par exemple, va plus loin et monte un programme actuellement qui s'appelle le programme Interception pour évaluer justement, et ça va se développer un peu dans toute la France, pour évaluer, en dehors des antécédents familiaux qui sont déjà pris en charge par des consultations et des parcours personnalisés, faire le point sur les facteurs de risque. Mais pas que familiaux, liés à l'alimentation, liés à l'activité physique, liés au comportement de type tabagisme, consommation d'alcool, et pouvoir évaluer votre risque. Et si vous êtes à un risque supérieur que par rapport à la population générale, vous proposez un parcours personnalisé.
Un parcours personnalisé de dépistage.
Alors, pas seulement, prévention et dépistage, puisque les dépistages n'existent pas dans tous les cancers, il y a des cancers qu'on ne sait pas dépister, mais il y a aussi tout le volet prévention, c'est-à-dire, une fois qu'on a identifié vos facteurs de risque, il y a des facteurs de risque qu'on appelle, en épidémiologie, des facteurs de risque modifiables. Évidemment, l'âge, les antécédents familiaux, vous ne pourrez rien y faire. En revanche, on sait aujourd'hui que presque 40% des facteurs de risque de cancer sont modifiables. C'est des facteurs de risque liés à vos comportements de santé, à nos comportements de santé. Mmh. Et c'est là-dessus on peut faire des choses.
Concernant les facteurs de risque, le traitement hormonal de la ménopause peut-il entraîner le cancer du sein ?
Alors, c'est un facteur de risque du cancer du sein, parce que le cancer du sein, c'est un cancer hormonodépendant. Mmh. Donc, c'est les hormones sexuelles féminines, les œstrogènes et la progestérone. Donc, de prendre un traitement anti-hormonal pendant une longue période entraîne un sur-risque de cancer du sein, mais ça ne suffit pas. Il y a plein de dames qui ont pris un traitement hormonal de la ménopause et qui ne feront pas de cancer du sein. C'est comme tous les facteurs de risque, il y en a qui sont plus ou moins forts. Donc, le tabac pour le cancer du poumon, c'est un facteur de risque très fort. Mmh. Le traitement hormonal de la ménopause, c'est plus faible pour le cancer du sein.
Une question d'une auditrice qui nous arrive grâce à notre WhatsApp, le 06 62 10 98 60. Doit-on obligatoirement m'enlever le sein si j'ai un cancer du sein un jour ?
Alors, pas forcément. Donc, quand on a un cancer du sein, comme tout cancer, le traitement principal, c'est la chirurgie. Donc, on enlève la tumeur, le cancer. Donc, quand on dit tumeur, nous, c'est une tumeur maligne, c'est le cancer. Donc le but, c'est de l'enlever. Ça s'appelle une tumorectomie. Donc quand la tumeur dans le sein est suffisamment petite, on peut enlever juste la tumeur. Donc on fait une tumorectomie et on garde le sein. Quand la tumeur est trop grosse ou que le sein est trop petit, parce que quand vous avez une tumeur de 3 cm chez une dame qui fait du 85A, on ne pourra pas conserver le sein. Par contre, si vous avez une tumeur de 3 cm dans un bonnet 110, on peut conserver le sein, parce qu'il y a le résultat esthétique qui compte. Mais donc, quand la tumeur est trop grosse, on peut faire une mastectomie. On est obligé de faire une mastectomie si on enlève toute la glande mammaire. Et les autres indications où on enlève toute la glande mammaire, donc une mastectomie, donc on ne conserve pas le sein, c'est quand le cancer du sein est apparu dans un contexte de mutation BRCA. Parce que comme on a cette mutation BRCA, on a risque de faire un autre cancer du sein dans les années qui nous restent à vivre. Donc là, on propose une mastectomie.
Quel cancer du sein est le plus dangereux ?
Alors, il y en a le cancer. Des cancers du sein, on va dire, il y a trois catégories. Il y a les cancers hormonodépendants, donc qui dépendent des œstrogènes et de la progestérone, c'est à peu près 80%, donc 8 cancers sur 10. Ce qu'on recherche également, c'est l'expression d'une protéine HER2. C'est une protéine qui peut être exprimée par les cellules cancéreuses du sein. Et donc, on retrouve à peu près pareil dans 15-20% cette expression des protéines. Et donc, avec le statut des hormones, donc c'est les œstrogènes, la progestérone et cette protéine HER2, on définit tous les cancers du sein. Il y a des cancers du sein hormonodépendants HER2-, des cancers du sein hormonodépendants HER2+, donc qui expriment la protéine HER2. Et on a les fameux cancers du sein triple négatif, dont on entend beaucoup parler. C'est qu'ils sont négatifs pour les hormones, le récepteur aux œstrogènes, négatifs pour le récepteur à la progestérone, et négatifs pour la protéine HER2. Donc ils sont trois fois négatifs. Et c'est eux qui sont de moins bons pronostics par rapport aux autres cancers. Ouais.
Alors les hommes peuvent aussi être assez rarement, mais aussi touchés par le cancer du sein.
Oui, on en a, c'est à peu près 1%. 1% des cancers du sein qui arrivent chez l'homme. Le plus souvent, c'est dans un contexte de mutation BRCA dont on a parlé. Mais parfois, il y a des hommes qui n'ont pas de mutation BRCA et qui font des cancers du sein. Donc c'est à peu près, c'est les mêmes traitements que les femmes. Et c'est souvent des cancers hormonodépendants. Donc on donne un traitement qui bloque les hormones.
Que faire pour réduire le risque d'apparition de ces cancers ?
Alors, c'est jouer justement sur les mesures de prévention, ce qu'on appelle prévention primaire, c'est-à-dire toutes les mesures qui vont permettre d'éviter l'apparition de la maladie. Et donc, il faut bien distinguer prévention et dépistage, puisque au dépistage, la maladie est déjà là. Et donc, on va essayer de la détecter à un stade très précoce. La prévention primaire, c'est essayer de jouer sur tout ce qui peut contribuer à la survenue d'un cancer. Et donc, autant pour le cancer de prostate, finalement, il y a encore aujourd'hui assez peu de facteurs de risque comportementaux liés à l'environnement sur lesquels on peut jouer. Puisque c'est essentiellement l'âge, les antécédents familiaux et l'origine. Mais pour le cancer du sein, en revanche, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors, il y a beaucoup de choses liées à l'alimentation. L'alimentation, et ça c'est vrai pour beaucoup de cancers, une alimentation trop riche en viande rouge, en charcuterie, une alimentation très peu riche en fibres, ça favorise la survenue de cancers. Ça joue aussi via le surpoids et l'obésité, puisque une alimentation déséquilibrée va conduire également à être plus facilement en surpoids ou obèse. Et on sait que le surpoids et l'obésité, c'est un facteur de risque très fort de survenue de cancer du sein. Les comportements de type consommation de tabac et consommation d'alcool sont aussi des facteurs de risque avérés, vraiment avéré pour le cancer du sein. Et on sait qu'il n'y a pas vraiment de seuil. On sait qu'évidemment, plus on consomme de tabac, plus on consomme d'alcool, plus le risque augmente. Mais même à des consommations très faibles, le risque dans les grandes études épidémiologiques augmente déjà. Après, il y a des donc ça, c'est des facteurs sur lesquels on peut potentiellement jouer. Je dis potentiellement parce que c'est pas toujours si simple. Ça dépend de son niveau d'éducation, de ses croyances, de dans quel milieu culturel on vit, quel type d'alimentation on a accès. On sait qu'il y a des très fortes inégalités socio-environnementales qui font que les comportements favorables à la santé sont pas toujours faciles à adopter. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas, il suffit pas de dire il y a qu'à Faucon. C'est vraiment des interventions de prévention qui vont être, on le sait, bénéfiques, mais pas toujours faciles à adopter. Et il faut qu'il y ait plus d'interventions, je dirais, ciblées pour différents groupes populationnels et pour adapter ces interventions aux inégalités socio-environnementales.
On peut dire que le cancer est une affaire de classe sociale ?
C'est une excellente question. Probablement en partie. En partie, mais pas complètement. Sur les facteurs de risque modifiables de type alimentation, consommation de tabac, d'alcool, travail de nuit, probablement et accès au comportement favorable à la santé, vous avez raison. Mais il y a aussi tous les facteurs génétiques et il y a aussi l'effet âge qui sont extrêmement puissants dans la survenue de cancer. Donc je pense que vous avez en partie raison et donc combler les inégalités sociales, territoriales et environnementales, c'est en partie une affaire de classe sociale en effet, mais c'est plus complexe que cela.
Une question d'un auditeur, une question assez curieuse mais intéressante. La fréquence de la masturbation influence-t-elle l'état de ma prostate ?
Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est un facteur protecteur de se masturber souvent pour le cancer de la prostate.
Notre auditeur est donc maintenant au courant. Une auditrice qui nous demande maintenant, peut-on avoir un enfant après un cancer du sein ?
Alors, c'est aussi une question d'actualité. Parce que c'est une question qui se pose souvent, parce qu'on a malheureusement de plus en plus de femmes jeunes qui ont des cancers du sein, donc qui ont 30, 35 ans, 40 ans. Et donc le traitement d'un cancer du sein, la plupart du temps, c'est on opère, on fait des rayons, de la radiothérapie, et après il y a 5 à 7 ans de traitement anti-hormonal, donc qui bloque les hormones. Et tant qu'on prend ce traitement, on ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'il y a des risques de malformation si on prend le comprimé en même temps. Et donc avant, on disait, après 2-3 ans de ce traitement par comprimé anti-hormonal, on autorise les patientes à avoir une grossesse parce qu'on pense que c'est ce qu'on appelle safe, il n'y a pas de risque, et que la patiente n'a pas plus de risque d'avoir une récidive de son cancer du sein.
Mais après l'arrêt, 3 ans après l'arrêt.
Alors, maintenant il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est l'étude POSITIVE, P-O-S-I-T-I-V-E, c'était l'année dernière. Qui a regardé cette question. Donc les femmes qui étaient en âge de procréer avaient leur traitement et au bout de 1 an et demi, 2 ans de comprimés, on leur disait si elles souhaitaient avoir un enfant, vous pouvez arrêter le comprimé et vous faites votre enfant, vous pouvez faire votre enfant. Et elles avaient, entre guillemets, on leur laissait 2 ans pour avoir un enfant, que ça soit par voie naturelle ou PMA ou autre. Et une fois qu'elles avaient eu leur enfant et qu'elles avaient accouché, on reprend le traitement qui bloque les hormones. Pour finir les 5 ans ou 7 ans au total. Et cette étude montre qu'il n'y a pas plus de récidive chez ces patientes pour lesquelles on a arrêté, on a fait une pause pour leur permettre d'avoir un enfant.
Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est une question qu'on se posait souvent en réunion. Ouais.
Quels sont les effets secondaires des traitements du cancer du sein ? Alors, et d'ailleurs ceux de la prostate aussi.
Alors on peut commencer par les effets secondaires communs, parce que c'est les traitements qui bloquent les hormones, parce que dans les deux cancers, que ce soit la prostate ou le sein, on donne des traitements qui bloquent les hormones. Donc quand on bloque les hormones, donc chez la femme, le cancer du sein, c'est on peut donner soit des piqûres une fois tous les mois, soit des comprimés. Pour les femmes qui ne sont pas ménopausées, c'est souvent le tamoxifène. Et pour les dames âgées, ce qu'on appelle le létrozol, inhibiteur de l'aromatase. Donc ça peut donner des douleurs, des symptômes de la ménopause, donc des douleurs osteo-articulaires, donc dans les articulations, des bouffées de chaleur, de la fatigue, des troubles de la concentration, des troubles de la libido. Donc une altération de la vie sexuelle, et c'est un peu pareil chez l'homme avec le cancer de prostate, c'est surtout les troubles de la libido, donc dysfonction érectile, et prise de poids pour les deux. Donc les deux, on a ce qu'on appelle le syndrome métabolique qu'on surveille. C'est pour ça qu'on insiste sur l'activité physique en cours de traitement, parce que ça fait prendre du poids, ces traitements. Et après, dans les autres traitements, on a la chimio et d'autres types de traitements, on pourra revenir plus tard. Il y a plein d'autres nouveaux traitements dans ces deux cancers. Ouais.
Donc l'activité physique est essentielle dans la guérison d'un cancer du sein ou de la prostate, même dans la prévention de l'apparition de ces cancers. Quel autre type d'activité ou que faire d'autre?
Alors c'est tout à fait, donc c'est favorable quand on a un cancer de faire l'activité physique, ça aide à mieux supporter les traitements, ça diminue les effets secondaires et ça aide sur plein de choses, sur l'estime de soi, la qualité de vie, même le fait que, de ne pas faire de récidive.
Diminue l'anxiété.
Ouais. Et alors c'est compliqué parce que dans les recommandations, ce qui est recommandé c'est de faire 30 minutes à intensité modérée à forte d'activité physique par jour, 5 jours par semaine. Et donc 30 minutes d'activité forte, ça veut dire qu'on transpire, qu'on a du mal à tenir une conversation. Donc même pour nous, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait 30 minutes tous les jours, 5 jours sur 7. Mais dans l'idéal, il faudrait faire ces 30 minutes d'activité physique un peu intense, au moins 5 jours par semaine.
Et c'est vrai que ce qui est alors on n'est pas des spécialistes de l'activité physique, mais c'est vrai que l'activité physique, ça marche sur tout. En termes de santé, c'est-à-dire pour les maladies cardiovasculaires, pour le cancer, pour la santé mentale. Donc c'est vrai que finalement, tout est bon pour faire de l'activité physique. Et les spécialistes de l'activité physique disent bien que l'activité physique, c'est pas forcément du sport. C'est-à-dire qu'il faut prendre tous les prétextes pour justement essayer de bouger, surtout avec les modes de vie occidentaux qui sont très sédentaires. Donc voilà, c'est ne pas confondre activité physique et sport pour essayer de bouger le plus possible, qu'on soit en prévention primaire, c'est-à-dire qu'on ne soit pas malade, ou au contraire qu'on ait eu malheureusement un cancer et qu'on essaye d'utiliser cette activité physique pour mieux supporter les traitements et pour éviter la récidive. Parce que là aussi, en prévention tertiaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été malade pour éviter les complications et la survenue d'un second cancer, le maintien d'un poids normal, l'activité physique, c'est bon.
L'activité physique a couplé évidemment avec l'alimentation et notamment la réduction de l'alcool. J'ai vu que 8100 cancers du sein par an sont imputables à l'alcool.
Oui, alors l'alcool, c'est maintenant un facteur de risque avéré de cancer du sein et de beaucoup d'autres cancers. Hein. Donc c'est vrai que si vous réduisez votre consommation ou si vous arrêtez complètement votre consommation d'alcool pour prévenir un éventuel cancer du sein, vous prévenez en même temps, pareil que pour l'activité physique, beaucoup de maladies, qu'elles soient cancéreuses ou pas. Il est faux de penser que si j'ai une consommation d'alcool faible, voire très faible, un petit verre de temps en temps, il n'y a pas d'effet. Il y a un effet qui est plus faible, évidemment, mais il y a déjà un effet.
Oui, ce qui est recommandé, c'est ne pas dépasser 2 verres par jour d'alcool et avec au moins 2 jours dans la semaine où on ne boit pas. C'est ce que recommande l'Institut National du Cancer.
Y a-t-il un risque quelconque au toucher rectal?
Non. Si la personne n'a pas eu d'opération, je ne sais pas, une chirurgie des hémorroïdes ou autre chose, ou une infection, il n'y a pas de risque. Après, il faut bien le faire dans les bonnes conditions, donc prévenir le patient, l'installer de façon correcte pour pas que ça soit trop désagréable, parce que c'est quand même un examen très désagréable, le toucher rectal. Mais il n'y a pas de risque, contrairement aux biopsies. Hein, les biopsies, quand on fait des biopsies de prostate, donc là, on met une aiguille pour aller prélever un bout de prostate, là, il y a un risque infectieux ou un risque de saignement qui est plus important. Mais le toucher rectal, non, il y a très peu de risques.
Les séances de chimiothérapie sont-elles obligatoires une fois que l'on a su que l'on avait un cancer de la prostate ou un cancer du sein?
Alors non, heureusement, maintenant, de moins en moins. Dans le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est quasiment tout le temps, sauf les cas dont on a parlé, quasiment tout le temps hormonodépendant. Donc, quand on a un cancer de prostate localisé, donc sans métastase, il n'y a pas de chimiothérapie. On fait soit une chirurgie, soit une radiothérapie, et un traitement qui bloque les hormones. Pour le sein, c'est un peu différent. Dans la plupart des cas, on arrive à se passer de chimiothérapie. Donc, il y a la chirurgie, la radiothérapie, et un traitement qui bloque les hormones s'il y a besoin. Mais parfois, il y a ce qu'on appelle des facteurs de mauvais pronostic. Donc, si le cancer exprime la protéine HER2, s'il y a des ganglions qui sont atteints, si la taille de la tumeur est grande, si le cancer est agressif, là, il faut faire un peu de chimiothérapie après l'opération. Et en général, on fait 5-6 mois de chimiothérapie et après, il y a une surveillance.
Et ce que vient de dire Marc-Antoine, c'est une très bonne nouvelle, notamment pour la population âgée, puisque plus de 60% de ces cancers surviennent chez des personnes qui sont âgées, voire très âgées. Et donc, en fait, certaines modalités thérapeutiques, et notamment la chimiothérapie que vous venez d'évoquer, sont moins bien tolérées chez ces personnes âgées. Parce que il y a des fragilités et des pathologies autres qui viennent se surajouter au-delà de 70 ans. Il y a une grande majorité des patients qui ont deux ou trois maladies en plus du cancer, et donc pour gérer l'ensemble de ces pathologies et pouvoir en plus leur faire une chimiothérapie dans de bonnes conditions, c'est parfois compliqué. Et donc, ces stratégies qu'on appelle de désescalade, c'est-à-dire qu'on va, on va essayer de se passer de certains traitements qu'on sait toxiques, efficaces mais toxiques, c'est une bonne nouvelle, en particulier pour les cancers qui touchent les personnes âgées, voire très âgées. Maintenant, on prend en charge des patients de 85-90 ans. Et donc, la question de la chimiothérapie à ces âges-là, ce n'est pas toujours simple.
Et nous allons pour le moment marquer une courte pause. Merci beaucoup d'écouter La Santé d'abord dans l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Une question, il me semble qu'on a évoqué sans vraiment y répondre. Quels sont les symptômes du cancer de la prostate? Je veux dire, les symptômes apparents visibles pour un non-professionnel. Pour le cancer du sein, on pense souvent aux palpations, mais pour le cancer de la prostate?
Donc on différencie cancer de prostate localisé ou métastatique. Donc on a un cancer de prostate qui est localisé à la prostate. Ça peut être le fait d'aller uriner souvent, d'avoir un jet de miction qui est plus faible, d'avoir du sang dans les urines ou des douleurs. Et après, quand le cancer est un peu plus avancé, comme tous les cancers, on peut être fatigué. Donc la fatigue, si vous avez une fatigue depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, il faut penser à aller voir le médecin parce que c'est un signe d'appel de cancer avancé. Il n'y a pas que ça, mais la perte de poids et les douleurs. Parce que le cancer de prostate, quand il est avancé, la première chose dans laquelle il va, c'est les os. Et donc, ça donne des douleurs. Donc, si on a une métastase sur les côtes, on a mal à la côte. Donc, ça, ce sont des signes voilà, de cancer de la prostate. Et parfois, il y a des cancers de prostate où il n'y a aucun signe.
Le professeur Florence Kenoui-Poitrine voulait nous parler de la recherche.
Oui, merci de m'en donner l'occasion. Il faut bien savoir que les progrès médicaux et donc la découverte de nouveaux traitements pour le cancer du sein ou de la prostate qui nous occupe aujourd'hui sont permis grâce à la recherche. Et qui dit recherche dit ce qu'on appelle les essais cliniques. Les essais cliniques, c'est quand on va tester dans le cadre de la recherche des nouvelles molécules pour lesquelles on a bon espoir que ça va permettre une meilleure efficacité ou une meilleure qualité de vie pour les patients qui sont atteints de soit le cancer du sein en général ou une forme particulière de cancer du sein ou cancer de prostate. Et les essais cliniques, on peut... si vous êtes patient atteint d'un de ces cancers, votre médecin, que ce soit votre oncologue, votre radiothérapeute, votre médecin traitant, peut vous proposer de participer à un essai. Et ce que je voudrais dire, c'est que la recherche médicale sans les patients, c'est impossible, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, alors bien sûr, on va demander le consentement, expliquer la recherche, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que participer à une recherche médicale quand on est patient, c'est pouvoir bénéficier soi-même de l'accès à un nouveau traitement, mais c'est aussi pouvoir permettre l'avancée des progrès dans les meilleures conditions et avec le meilleur niveau de preuve et sans les patients. On ne peut pas faire avancer la recherche médicale et la recherche en cancérologie.
Et nous terminerons cette rubrique aujourd'hui en abordant les nouveaux traitements en cancérologie.
Oui, merci. On va notamment dans le cancer du sein. Je peux vous parler de quelques traitements qui sont arrivés il y a pas longtemps, quelques années. Alors, ce dont vous avez sûrement dû entendre parler, c'est l'immunothérapie, donc qui est arrivée dans beaucoup de cancers. pas encore dans le cancer de la prostate, mais dans le cancer du sein, on l'a. Donc l'immunothérapie, c'est des injections, et le but, c'est de réveiller le système immunitaire du patient pour qu'il aille lutter contre les cellules cancéreuses. Donc c'est son propre système immunitaire qui va détruire les cellules cancéreuses. Et donc l'immunothérapie, ça marche très très bien dans le mélanome, le cancer du poumon. Il y a des mélanomes qui sont métastatiques, qui sont guéris avec l'immunothérapie, alors qu'il y a 10 ans, c'était des gens malheureusement qui mouraient très vite. Donc il y a l'immunothérapie qui est arrivée dans le cancer du sein, notamment dans le cancer du sein triple négatif, qui n'est pas hormonodépendant et qui n'a pas la protéine HER2. Et il y a d'autres traitements qui sont arrivés, ce qu'on appelle les anticorps conjugués. Donc en anglais, c'est ADC, c'est Antibody Drug Conjugate. Donc c'est un peu comme un cheval de Troie. Donc c'est arrivé par exemple dans le cancer du sein qui exprime la protéine HER2. On a un anticorps, quelque chose qui va fixer la protéine HER2, donc ça cible les cellules cancéreuses qui expriment HER2. Et une fois que ça a ciblé la cellule, ça va rentrer dans la cellule cancéreuse et libérer de la chimio dans la cellule cancéreuse pour la faire mourir. Et donc ça, on a beaucoup d'ADC qui arrivent en ce moment et c'est ce qui est un peu le futur. Enfin, il y en a beaucoup et dans plusieurs types de cancers, pas que le cancer du sein. On en a dans le cancer du poumon et d'autres cancers. Et donc ça, c'est vraiment le traitement d'actualité dont on va reparler à notre prochain congrès là, en juin, le congrès américain international sur le cancer.
Merci beaucoup Marc-Antoine Bendera, Florence Canouille, Poitrine et Suzette Fernandez pour cette rubrique. La santé d'abord, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions ici sur Radio Alpha.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.